France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Cette édition se partage entre une étonnante fabrique du monde rural dans une commune de Haute-Saône et une association inspirante de l'île de Ré. Côté Haute-Saône, c'est à Cobon-Fontaine que nous appellerons Pierre-Louis, un des permanents de ce tiers-lieu rural qui lance à partir d'aujourd'hui un accueil jeune en plus de ses multiples activités. Puis sur l'île de Ré, on s'inquiète franchement des déchets plastiques qui envahissent le littoral. Lauréate d'un concours de la Fondation du Crédit Coopératif, l'association La Porte Bonheur met au point une unité de fabrication de briques à partir de ces déchets et nous frapperons donc à la porte de la Porte Bonheur dans la deuxième séquence de ces carnets.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Pierre-Louis Magnien, bonjour.
Bonjour.
Je suis allé voir votre site de la fabrique du monde rural à Cobon-Fontaine. J'ai trouvé ça génial parce que vous avez une pêche, tous, vous êtes jeune. C'est une association d'éducation populaire à l'origine, à l'initiative du MRJC, le Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne. L'idée, c'était de proposer un outil de réflexion, de création, éventuellement, alors, si possible, pour les jeunes.
C'est ça, exactement. Donc le MRJC, donc, c'est une association de jeunes d'éducation populaire, comme vous l'avez dit. Et du coup, en 2013, le MRJC, pour ancrer davantage ses actions en rural, s'est lancé dans une dynamique autour des tiers-lieux, donc on a appelé les fabriques du monde rural, donc avec plusieurs objectifs de rassembler les habitants d'un territoire rural, permettre le foisonnement d'idées et la coopération au quotidien autour de projets, et puis ensuite d'offrir un espace d'expérimentation pour permettre des synergies sur le territoire et puis appréhender le monde rural d'aujourd'hui et de demain et donner aussi une place aux jeunes pour agir et grandir ensemble sur ce qu'on fait déjà depuis pas mal d'années avec le MRJC.
Ouais, pardon du cliché, mais je suis un rural, hein, assumé. Mais comment avez-vous fait pour faire sortir les habitants de leur lieu de vie, pour se retrouver dans un lieu commun, comme votre tiers-lieu ?
Eh bien, c'est un travail quotidien de mobilisation. Il faut aussi faire comprendre le projet, puisque les tiers-lieux, c'est des espaces assez nouveaux, finalement, qu'on ne connaît pas encore très bien. On essaie d'ouvrir la porte et d'offrir des espaces d'expérimentation. On offre aussi, on permet des activités assez variées, assez diverses, qui permettent à chacun, à un moment ou à un autre, de trouver un intérêt à venir partager, à venir des fois juste boire un café, discuter, ou des fois porter des projets plus long terme. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant aussi sur notre lieu, c'est qu'on touche les jeunes en priorité, mais également, comme il s'agit d'un projet de territoire qui répond à des besoins, eh bien, ça englobe toute la population, donc jeunes ou moins jeunes, et donc ça permet un mélange intergénérationnel qui est plein de vie, quoi.
Ouais. Mais vous dites bien, honnêtement, Pierre-Louis, que pour les jeunes, il y a assez peu d'opportunités dans le département, les offres ne sont pas très nombreuses. Vivre, être jeune en Haute-Saône, chez vous, à Cobon-Fontaine, laisse espérer quoi? Quel type d'activité et quel type de projet, par exemple, depuis que le tiers-lieu existe, avez-vous pu recueillir?
Eh bien, en effet, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de propositions pour les jeunes du monde rural, par chez nous. Et puis, on vient aussi apporter un espace donc pour les jeunes. Et puis, en termes de projet, on organise un petit peu des activités. Donc, par exemple, on a déjà accueilli et organisé des soirées festives comme des balles folk, des soirées jeux de société, des soirées débats. Et puis après, on travaille aussi avec on a aussi organisé des ateliers d'échange de savoir pour apprendre les uns des autres. On apprend à faire du pain avec un jeune apprenti boulanger, découvrir l'apiculture avec deux apiculteurs amateurs. On a un jardin pédagogique, donc un jardin en permaculture. Donc on expérimente avec une petite équipe de bénévoles qui est là sur le lieu. Et du coup, c'est aussi un support pédagogique. On voit ça toujours dans l'intérêt du collectif. Et puis, on a eu des événements un peu plus créateurs de liens aussi, sur des questions qui concernent les ruraux, les jeunes et les jeunes ruraux. Donc autour des soirées, on a organisé une soirée transmission d'exploitation agricole en lien avec l'association Terre de Liens pour s'emparer aussi de cette question-là qui est assez épineuse finalement. Donc voilà, c'est aussi s'emparer des sujets de société et puis en général, on organise aussi des colos, donc des séjours qu'on a l'habitude d'organiser. Et puis depuis qu'on a ces lieux, donc des fabriques du monde rural, il y en a 3 en France aujourd'hui. Et donc c'est aussi des lieux qui ont vocation à être des point d'ancrage pour le mouvement, donc pour permettre d'organiser des colos et d'autres événements comme cela.
Ouais, alors quand on devient fabrique du monde rural comme vous, On a une feuille de route imposée?
Alors, on a une feuille de route qui s'adapte, je dirais, un petit peu au territoire et à ses besoins. Puis à la fois, c'est une feuille de route qui se dessine avec l'équipe de jeunes en local, en sachant qu'on a deux instances en termes de fonctionnement sur le territoire, enfin sur le MRJC et sur la fabrique. Donc à la base, au MRJC, c'est plutôt les sections départementales avec un conseil d'administration de jeunes bénévoles. Et puis là, sur la fabrique, c'est un autre groupe, donc avec des personnes un peu plus âgées, mais qui sont passées par le MRJC et qui aident un peu les jeunes à prendre leur marque et à structurer un petit peu ce projet-là.
Dorénavant, tous les mercredis après-midi, il y a des animations jeunes aussi.
Et effectivement, puisque donc on est deux salariés, et ma collègue Lucie lance un ACM, donc un accueil collectif de mineurs, avec des activités régulières pour les jeunes. Et donc l'idée, c'est de proposer chaque semaine donc des activités pour les jeunes, pour qu'ils puissent découvrir, apprendre à faire ensemble, et puis que ça puisse provoquer la rencontre, et puis permettre d'éventuels projets qui leur donnent envie de s'engager, et puis de faire vivre le territoire rural sur lequel ils vivent et sur lequel ils vivront peut-être plus tard.
Ouais, j'ai pas tout mentionné, parce qu'il y a un café associatif chez vous, il y a aussi une cuisine professionnelle avec Marjolaine, jeune auto-entrepreneuse installée là-bas depuis 3 ans. Le lien mrjc.org, et puis vous allez tomber sur la fabrique de Combo Fontaine. On va vous la mettre en lien comme on fait avec tout le monde pour chaque émission. Merci Pierre-Louis et gardez la pêche.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Je découvre le grand ménage, une autre façon d'investir les rues et les places. Le grand ménage, c'est d'abord une réponse au manque d'équipements culturels dans le sud luberon. Ça peut étonner, puisque c'est un pays grandement fréquenté, sensiblement gentrifié, comme on dit, avec des résidences secondaires nombreuses, mais qui n'animent pas la vie locale durant l'année. C'est pour cette raison que le centre culturel Vaugine a inventé en 2015 ce grand ménage qui normalement avait lieu au printemps. Crise oblige, il s'est transformé en automne. Et depuis 5 jours, 11 compagnies traversent 6 communes du Luberon pour donner 30 représentations ainsi que des concerts. Le festival dure jusqu'à dimanche. Il devrait attirer près de 4000 spectateurs, dont 45% de familles, puisque l'événement s'adresse d'abord à un public local qui n'a pas toujours les moyens de se rendre dans les lieux culturels de la région, que ce soit à Aix-en-Provence ou à Avignon. Le festival des arts de la rue n'est pas la seule initiative du centre culturel, puisqu'il y a des résidences artistiques et une offre culturelle complète tout au long de l'année. Le site, c'est legrandménage.fr. C'est drôlement bien. Tristan de Pelsener, bonjour.
Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs et bonjour à toute l'équipe de France Inter.
Vous êtes président de l'association La Porte Bonheur, basée à Saint-Clément-des-Baleines, sur l'île de Ré. Pardon de cette question d'une grande généralité. Le bonheur, vous l'entendez comment, vous?
Eh bien, nous essayons de permettre à tout un chacun de retrouver le sourire. C'est vraiment le symbole de l'association. C'est la main ouverte qui tend un sourire en écoutant un petit peu la population, même mondiale, parce qu'on a beaucoup voyagé en l'espace de 10 ans, là, depuis la création de l'association. Et on s'aperçoit que il y a beaucoup de choses qui font râler. Et là, en particulier, le thème qui fait râler un petit peu toute la planète, toutes les populations, eh bien c'est l'échouage de déchets sur les estrans, sur le littoral, les océans, plein de déchets. Et puis effectivement, le fait de se promener n'importe où dans l'Amazonie ou en Nouvelle-Zélande, et puis essayer de faire des photos nature, et puis finalement de trouver tout le temps des déchets n'importe où. Et souvent, effectivement, ce sont les déchets des pays industrialisés.
Puis il y a les déchets aussi laissés par le tourisme massif qui touche l'île de Ré.
Eh bien, effectivement, il y a en partie le tourisme de masse qui a un terrible impact sur l'environnement de l'île de Ré, mais également la production ostréicole. 75% des déchets collectés tout au long de l'année viennent en particulier de la conchyliculture.
Ouais. Alors, il y a le gros problème des déchets plastiques, et vous êtes lancé dans la valorisation de ces déchets. Vous avez reçu d'ailleurs ce titre, un prix régional fondation du Crédit Coopératif, avec la possibilité de transformer ces déchets en briques.
Il y a 5 ans, j'étais en Suisse chez ma compagne, et j'ai découvert le réseau Precious Plastic en Angleterre. Un ingénieur qui s'est lancé dans le broyage de plastique avec des toutes petites machines qui sont très faciles à déplacer pour aller dans les écoles, pour faire de la sensibilisation. Et effectivement, après avoir broyé les plastiques qui ont été identifiés, dépollués, on les broie en petites paillettes, on obtient une certaine granulométrie qui permet ensuite de les mettre dans une extrudeuse, Une extrudeuse, c'est une machine qui chauffe à très haute température, qui fait fondre le plastique, que nous injectons sous pression dans des moules en acier que nous avons développés avec un partenaire en Angleterre. Et dans ces moules, bien remplis de plastique, on arrive à en sortir des briques en plastique composées uniquement de déchets. La température brûle les agents qui sont thermofusants, thermofixateurs, et on réussit à obtenir des briques. Et ces briques, l'idéal serait de pouvoir les exploiter afin de construire du mobilier urbain, des abris à vélo, des bacs à marée qui permettent ensuite de capter les déchets sur la plage et de créer de l'économie sociale et circulaire.
Alors, seule condition aujourd'hui pour le développement de cette activité, c'est de trouver un local parce que vous êtes en quête d'un lieu qui servirait de ressourcerie d'abord.
Effectivement, donc on a un projet de tiers-lieu hybride avec l'idée de trouver un local sur l'île de Ré. Alors là, c'est vraiment très compliqué.
Oui.
Malheureusement, nous n'avons pas le soutien des élus locaux, de la communauté de communes. Donc nous nous tournons vers les privés, les professionnels, les particuliers, qui sont très présents, qui nous soutiennent énormément sur le terrain, qui veulent une ressourcerie sur le territoire île de Ré. Et au sein de cette ressourcerie, nous pourrions y installer le laboratoire de fabrication des briques plastiques. Donc ça nous permettrait de faire de la revalorisation de tous les objets qui sont réutilisables, et en même temps de récupérer les plastiques, donc tout ce qui est collecte d'emballage, de bouchons, de bidons, de savon, trier avec les parents, avec les particuliers, avec les citoyens de l'île de Ré, et tous ensemble apprendre à identifier les plastiques, les reconnaître, les broyer, les faire fondre, obtenir des briques qui seront utilisées sur l'île de Ré pour faire du mobilier urbain, pour servir à la collectivité.
Tristan, dernière chose, il n'y a pas de possibilité de dialoguer avec les collectivités, les responsables et les élus ?
Eh bien, le dialogue a lieu depuis maintenant 5 ans. Malheureusement, au bout de 5 ans, nous n'avons toujours pas réussi à être invités et reçus par le président de la communauté de communes, M. Pillet. Nous avons rencontré les différents élus de l'île de Ré qui, malheureusement, ne veulent pas des bacs à marée qui permettent aux citoyens de collecter les déchets sur les plages.
Ouais.
Et après, la notion de déchets sur l'île de Ré, ça passe très mal, effectivement. On nous a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas parler de déchets sur l'île de Ré.
Monsieur le Président de la communauté de communes, je suis sûr que vous êtes sympa et que vous êtes sensible à cette cause mondiale, universelle. On est là pour favoriser le dialogue, favoriser l'entente et prendre de véritables dispositions. Donc on attend de vous un petit geste avec la porte-bonheur pour entrer en négociation constructive. Merci au passage. Le site c'est laporte-bonheur.wordpress.com si vous voulez en savoir davantage. Merci et bonne suite à vous, Tristan.
Merci beaucoup.